Canal Académie.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je vous donne peut-être une sorte de explication de la façon dont j'ai envisagé ces lectures. Alors, il y en aura trois, c'est pas pour un appel du pied pour les prochaines, mais bon. Aujourd'hui, ça va être une proposition assez générale sur Monet à Giverny, une vie au quotidien. Pour le dire, c'est un intitulé Monet au quotidien que je traîne avec moi depuis 40 ans, dans la perspective d'un ouvrage qui compilera toutes les archives épistolaires, en tout cas tous les extraits me paraissant intéressants pour le grand public, mais aussi pour les historiens d'art, à propos de la vie de Monet à Giverny. Le 8 juin, je ferai un focus sur Monet en voyage, en parlant de Londres, de Norvège, d'Espagne et de Venise. Et le 14 septembre, c'est bien loin, je ferai un focus sur l'aventure, je dirais, des nymphéas. Si bien que dans cette proposition du jour, je vais évoquer, mais très rapidement par une image ou deux, les éléments de voyage qui seront développés par la suite. Alors, tout de suite vous dire quelle est la matière première que j'explore depuis, oserais-je le dire, certainement 50 ans. C'est tout un ensemble de lettres qui sont, pour la plupart, des lettres d'Alice, la seconde femme de Monet, à ma grand-mère, Germaine. Et vous avez ici deux exemples, une lettre d'Alice et une lettre de Monet. C'est un peu pour que vous soyez... que vous familiarisez comme ça, c'est, je dirais, presque la chair de l'écriture. Et c'est à travers ces lettres que, finalement, on va extraire un certain nombre de situations qui ne manquent pas de nourrir la connaissance de Monet au regard de sa vie givernoise. Mais je pense qu'avant toute chose, il faut que je vous donne un peu un aperçu du contexte familial qui n'est pas toujours le plus évident. Voyez cette magnifique photo. Donc ça fait partie de ces autres archives dont je dispose, qui sont des archives photographiques à côté des lettres. Cette photo, je ne sais pas la date, mais je peux la déduire, notamment par la jeune fille qui est à droite et qui porte un petit chapeau blanc et qui est ma grand-mère. Comme elle est née en 73, que je trouve cette gamine doit avoir entre 14 et 15 ans, 73 et 14, 87, 88. Ce qui correspond à déjà quelques années d'installation à Giverny de ce couple concubin, il faut bien le dire, que constituent Claude Monet et Alice. Alors, est-ce que la flèche... vous la voyez, ma flèche, ou pas du tout ?
Non.
Non. Mais ça ne fait rien, on va décrire très rapidement pour que vous ayez... Et puis on reviendra, elle va revenir, cette photo, en sortant une image. Donc, évidemment, vous avez reconnu Monet. Vous avez aussi, peut-être aisément, compris que la dame... d'un certain âge, enfin d'un âge plutôt certain, c'est Alice qui s'appelle Ojdé, puisqu'elle n'est pas mariée à cette époque à Monet. Alors, Alice et Monet arrivent à Giverny en mai 1883. Dans cette situation particulière, où il est veuf depuis 4 ans, il a deux enfants. L'aîné, c'est celui qui est debout en arrière-plan. Et le cadet, c'est celui qui est assis à gauche au pied d'Alice. Ce sont les deux enfants de Monet. Alice, qui s'appelle Ojdé, de son nom marital, de femme, a 6 enfants. L'aînée, c'est celle qui est au premier plan, assise sur le banc, habillée en blanc, Marthe. La seconde, c'est celle qui est habillée en blanc sur la gauche, en arrière-plan, et qui est Blanche. La troisième, c'est celle qui est complètement à droite avec cette robe noire avec un motif blanc. Et puis surtout, cette petite mèche qui permet toujours de reconnaître. C'est Suzanne. Suzanne, c'est la femme à l'ombrelle que tout le monde connaît. Elle est là-bas, dans les copies qui sont ici de l'atelier. Après, il y a Jacques. Pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Vous voyez, c'est moi-même qui fais des bêtises. Je vais me lever. Non, parce que si je vous dis des choses qui ne sont pas justes, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi je me suis laissé aller. Monet, 2 enfants. Si, c'est bien ça. Ah non, Jean. Ici. Michel, ici. L'aîné, le cadet. D'accord ? Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Alice, 6 enfants. Marthe, Blanche, Suzanne, Jacques, Germaine, Jean-Pierre. Ok ? Vous avez vu, je ne vous ai pas caché. Où l'histoire est toujours assez étonnante, c'est que Jean-Pierre, qui est le petit dernier d'Alice, est assurément un enfant adultérin de Monet et de Alice. Et puis, par la suite, on verra un peu, mais je peux déjà vous le dire, Blanche et Jean vont se marier ensemble. Vous voyez, c'est une famille un peu compliquée. Mais cela, vous allez le mesurer, ou si vous, peut-être vous connaissez déjà la situation. En tout cas, la voilà sous une forme plus écrite. Claude Monet s'était marié en première noce avec Camille Doncieux, qui est morte à Vétheuil en 79 à l'âge de 32 ans, 31 même. Elle a eu 2 enfants, Jean et Michel, nous l'avons dit. Ernest Ojdé et Alice Ringaud, donc ont eu les 6 enfants. On dit ça parce que Jean-Pierre n'a jamais été reconnu comme un enfant de Monet. Mais il n'y a pas de doute, à tout point de vue, il y a plein d'éléments qui permettent de le certifier. En 1883, le couple Ernest Ojdé et Alice étaient séparés. Monet veuf vivait avec Alice et tout ce beau monde est arrivé à Giverny. Dans une lettre sans date de cette arrivée à Giverny, ici une photo prise par Theodore Robinson, un des peintres américains. Dans une lettre sans date, mais qui correspond vraiment au tout début de l'arrivée de cette famille recomposée, c'est une lettre de Alice à Germaine. Avec quelle joie j'ai reçu tes lignes. Ta lettre m'est arrivée ce matin comme nous rentrions, Jacques, Suzanne et moi, d'une longue promenade, et sommes rentrés chargés de fleurs. Il y a des bois entiers de lilas et de genêts. Le pays est encore plus beau qu'à Vétheuil. Je suis émerveillé. Nous n'arrêtons pas de nous promener. Nous prenons nos repas dehors. Enfin, nous retrouvons notre vie de campagne. Donc cette lettre tout à fait intéressante met bien l'introduction de cette vie à Giverny. Je vais aller, alors on saute des années, ce n'est pas chronologique année par année. Par exemple, là, c'est une séquence qui est intéressante. Germaine, donc ma grand-mère est en vacances à Paris, puis après une tante en Bretagne. Donc dès qu'elles sont séparées, Alice, sa mère, et Germaine, la dernière, la petite dernière, il y a échange épistolaire. Tant mieux pour l'histoire de l'art. Par exemple, le 26 août, d'ici de Giverny, Alice écrit à sa fille « Monsieur Monet a renoncé à ses tableaux de figures. Un peu, je crois, à cause de ton départ. » Ce tableau est daté de 1887 et représente précisément deux filles hochetées dans une barque. Du reste, le temps est bien variable. Les petits hier ont été nous pêcher 60 grenouilles qu'on va manger ce matin. Ici, un tableau de Monet qui représente Jean-Pierre Hochedet et Michel Monet au bord de l'Epte, 1887. Vous voyez, ils pêchent des grenouilles. Une autre lettre, nous avons pris hier notre bain et cela était bien bon et agréable. Le bain, c'est dans la Seine ou dans l'Epte. À l'époque, on pouvait se baigner, évidemment, dans la Seine. Et puis, comme toujours, nous avons fait notre partie de croquet. Jeu avec des boules et un maillet. Encore, le 30 août 87, hier, nous avons été faire une longue promenade pour chercher des cèpes à Gagny et nous sommes revenus en chemin de fer, Blanche, Monet, les petits et moi. Le temps est encore assez mauvais, aussi impossible de peindre. Il y aura beaucoup de relations entre la météorologie et le fait de travailler. Monet est un météorologue de l'âme. 2 septembre, nous avons toujours la même terrible tempête, un vent à ne savoir où se mettre. Hier, Monet a essayé de reprendre la toile avec Blanche et Suzanne. Voici une toile qui représente, une toile de Monet, qui représente Blanche en train de peindre, avec Suzanne à ses côtés, qui est en train de peut-être tricoter, faire de la couture. Il y a 2-3 tableaux que Monet a fait cette année 87 de Blanche peignant. Très important, évidemment, pour savoir cette biographie de Blanche Hochedet-Monet. Hier, nous avons été nous promener sur l'Epte, car impossible à Monet de travailler avec ce temps. Il faisait un tel vent qu'à toute minute, je m'attendais à recevoir un peuplier sur la tête. Et puis, une semaine plus tard, ah, voilà enfin le vrai beau temps revenu. Et le lendemain, hier, grâce au beau temps, Blanche, Suzanne et moi avons fait une bonne partie, nous avons canoté toute la journée et avons débarqué à Ma Campagne. C'est un lieu-dit à Vernon, là où habitait par la suite Bonnard. Nous étions de retour à Giverny pour la partie de croquet. Alors, l'installation, on le sait, de Monet à Giverny a eu une conséquence assez rapide, disons vers la moitié des années 80, arrivé en 83, donc 85-86, certains Américains débarquent. Cette fois-ci, c'était aussi dans un bon sens, au sens où ils avaient entendu, évidemment, parler de Monet, de ses propositions nouvelles. Et cette relation avec les Américains n'a pas toujours été très simple, mais en fait, on peut relever dans une lettre d'un des enfants d'Alice, à sa mère, qui n'est pas à Giverny à ce moment-là, datée du 19 juillet 88, une lettre très intéressante qui en dit long, justement, de la relation de Monet avec ses Américains. « Hier, comme je te l'ai dit, Breck, donc John Leslie Breck, et Robert Henry, donc l'un et l'autre, à droite, à gauche et à droite, sont venus à nouveau dîner, à nouveau. » Donc, ils avaient quand même une habitude. Ça permet de laisser entendre que ben voilà, Monet n'était pas complètement fermé. Ceci étant, il les reçoit à dîner parce que sa femme n'est pas là. Sans doute, c'était plus Alice qui ne voulait pas que son mari soit embêté par les jeunes Américains qui étaient là. Nous avions des cèpes délicieux et Taylor, donc il s'agit de James Taylor Harwood, s'en est collé une tranche. Mais Breck s'est forcé et je croyais qu'il allait tout rendre dans le plat. Vous voyez, comme quoi, hein ? Monsieur Monet, qui est d'une humeur charmante, lui disait tout le temps qu'ils étaient empoisonnés. Et Breck, qui est très timide devant Monsieur Monet, piquait des phares à chaque instant. Après le dîner, Taylor a offert des cigares de la Havane à tout le monde, et tous les hommes ont fumé le cigare. Breck nous a invités pour le 14 juillet, nous sommes, pas le 19, pardon, le 13, Metcalf, parce qu'il tire un feu d'artifice. Oui, c'était une habitude de chez les Américains, de fêter la fête française. Metcalf, c'est un autre artiste qui s'appelle Metcalf Willard, est d'une humeur de chien. Cependant, il fait patte douce pour pouvoir rentrer à la maison. Mais ça ne mord pas. C'est-à-dire que ces Américains, bah, ils espéraient qu'ils arriveraient à côtoyer, fréquenter Monet. C'était, ils avaient 30 ans, Monet en avait 45, 15 ans de plus, c'était l'aîné, c'était un peu le mentor. Alors, parmi ces Américains, il ne faut pas oublier de citer, évidemment, Theodore Butler, puisqu'il va avoir, lui, l'avantage de vraiment intégrer la famille. On en reparlera tout à l'heure. On est dans cette période où, année 80, où la famille Hochedé-Monet est installée ici, locataire, pas encore propriétaire. Ce n'est pas encore le moment de cette période faste qui arrivera par la suite. Et Monet vit dans cette situation de concubinage. Et puis, il a une chose à faire, c'est de la peinture, pour notre grand bonheur. Donc, il va souvent partir d'ici, laisser finalement ses deux enfants à la charge de Alice, bien sûr, et puis Alice avec les six autres. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, voilà, par exemple, une lettre qui est assez amusante et qui parle beaucoup de la relation de Monet avec ses beaux-enfants. Il est à Étretat, en 89, dans cet hôtel, puisque la lettre est à l'entête de l'hôtel Blanquet. Donc, j'ai retrouvé tout simplement une carte postale de l'époque. Et c'est le 1er février 89, et Monet envoie une lettre, la voici, à... alors là, c'est une lettre de Monet, mais dans une graphie un peu différente de celle qu'il va avoir par la suite. Surtout que là, il écrit avec une plume un peu normale. Alors après, il écrira avec une plume d'oie. « Ma bonne petite Germaine, j'ai été très sensible. » Donc, il envoie une lettre, cette lettre, à ma grand-mère, qui a, elle est née en 73, elle a 16 ans. « Ma bonne petite Germaine, j'ai été très sensible à ta gentille lettre et il ne faut pas m'en vouloir de ne pas t'avoir répondu plus tôt. Je suis bien heureux de savoir que tu es tout à fait guérie et que tu retournes étudier au couvent. » Je n'ai pas éclairci qu'est-ce que c'est que ce « au couvent ». Tu vas devenir bien vite aussi savante que tes sœurs. Ta lettre était, ma foi, très bien écrite et très gentiment tournée. Et je te remercie d'avoir tenu ta promesse. J'aurais voulu m'appliquer et mieux écrire pour que tu n'aies besoin de personne pour lire ces lignes. Mais cela m'est impossible. Je ne puis écrire si bien que toi et je suis trop vieux pour apprendre. Trop vieux, il exagère, hein, il a 49 ans. Je t'envoie mes baisers en attendant que je puisse t'embrasser pour de bon. Partage-les avec les petites, Blanche et Suzanne. Préviens ta mère que demain matin, elle recevra un panier de belles crevettes roses qui viennent d'être pêchées à l'instant. On les fait cuire et elles vont partir ce soir. Vous penserez à moi le mangeant. J'aime bien cette petite anecdote relative à l'alimentation et à la gourmandise, parce que c'est effectivement quelque chose qui est très important que la table de Monet. J'aurais pu consacrer aussi, mais je n'ai peut-être pas assez d'archives manuscrites pour pouvoir faire quelque chose sur la table. Mars 90, nous sommes avec Germaine et Marthe sont à Paris chez leurs oncles. Monet, qui était aussi, est de retour à Giverny. Donc, séquence de la vie au quotidien, Alice envoie un petit mot à sa fille. Monet m'a conté votre bonne soirée au nouveau cirque et votre dîner. Donc, ça nous donne une indication que quand il était à Paris avec les deux filles, il est allé au nouveau cirque. C'est intéressant de noter que, ben voilà, et puis après le dîner, parce que ça revient en permanence. Je vous disais que Monet était de retour à Giverny après avoir été à Paris. Il a rapporté sa belle toile de Pissarro. Alors, l'avait-il acheté, l'avait-il échangé? Je n'ai pas l'indication. Que nous avons fort admiré, mais je ne crois pas qu'elle puisse tenir dans sa chambre. Alors, j'ai pas encore retrouvé les, enfin, j'ai pas pris le temps de retrouver les dimensions. Mais vous connaissez ici, les chambres sont pas des espaces considérables. Il a aussi rapporté un album de photographie de chez Petit. Petit, c'est un galeriste très connu à Paris à cette époque, contenant des Corot, Millet et Delacroix. Vous savez, rien que cette phrase, elle est riche d'intérêt pour des historiens. Un album de photographie contenant des Corot, Millet et Delacroix. Donc déjà, reproduction photographique d'œuvres d'art montées dans un album chez un galeriste, sous-entendu, c'est un catalogue pour la vente. Donc vous voyez, ça c'est très... Et alors ce qui est amusant en plus, Blanche, HD, Monet, Blanche, était impayable avec son parti pris de Delacroix contre Corot. Donc discussion esthétique à Giverny, à l'intérieur même de la famille. Une autre lettre qui suit. Ce matin, nous avons été bien matinal, car Monet et Blanche prenaient le premier train pour Gagny. De là, ils allaient à pied à La Roche, voir leurs motifs. Ils sont revenus par le train qui nous a emportés, Suzanne et moi, au marché de Vernon. Je crois, si le temps continue à être beau, qu'ils vont aller y travailler. Je le désire bien, car il est temps qu'ils se remettent tous deux à l'ouvrage. Alors ça, c'est très précieux quand on travaille, comme c'est mon cas, aussi bien sur Monet que sur Blanche HD Monet, le peintre. Car il est temps qu'ils se remettent tous deux à l'ouvrage. Nous avons bien à faire, car Monet nous a chargé de lui trouver des tuteurs en châtaignier et il nous faut monter tout en haut de la route d'Evreux et redescendre à Vernonnet. Je n'ai pas, pour l'instant, regardé sur une carte où est-ce qu'il allait chercher, chez quel pépiniériste. Hier, nous avons eu un assez vilain temps. Monet et moi sommes restés à faire la lecture. Suzanne et Blanche ont été à leur tennis. En contrebas de l'hôtel Body, les propriétaires de l'hôtel Body avaient installé un terrain de tennis qui est sport favori des Américains qu'ils hébergeaient. Elles sont prises d'une vraie rage et y jouent tout le temps. Alors, sans doute aussi que ça leur permettait de jouer, d'échanger avec des jeunes de leur âge. Monet et Blanche n'ont pas pu partir ce matin pour La Roche comme s'ils en avaient l'intention, le temps n'étant pas ce qu'ils voulaient. J'espère que demain, ils pourront commencer. Alors, une petite séquence qui est assez intéressante, parce qu'on arrive à la fin des années 80 et au début des années 90. Alors, il arrive que, en 91, le 18 mars, mort d'Ernest HD. Voilà donc Alice veuve. Alice et Monet ne vont pas se précipiter à se marier, ce serait presque inconvenant. Mais un événement va arriver qui va les entraîner à le faire. C'est que justement, peut-être au tennis, je ne sais pas, et on n'a pas d'informations, enfin en tout cas moi je n'en connais pas, Suzanne, le modèle de la femme à l'ombrelle, qui était le modèle préféré dans les filles de Monet, Suzanne rencontre Butler. Et, ça se passe bien, et à un moment, Suzanne va faire part de son désir de se marier à Butler. Alors, dans un premier temps, ils étaient les parents et beaux-parents, la mère et le beau-père. Ils n'étaient pas très très chauds parce qu'ils craignaient que ça allait complètement bousculer la famille avec les Américains à la maison, etc. Mais finalement, ils ont accepté, mais à une condition. C'est que le 16 juillet 92, donc le 16 juillet, Monet va épouser Alice. Parce que pour Monet, qui venait, ça fait maintenant, en 92, ça fait 14 ans qu'ils vivent ensemble. Donc ça fait 14 ans qu'il a élevé les enfants, les siens et ceux d'Alice. Donc il ne veut pas être à ce mariage comme le concubin. Et comme maintenant ils peuvent se marier puisqu'elle est veuve, ils veulent donc, voilà. Donc Monet et Alice, hop, c'est juste pour bien cibler, et voilà le registre de l'état civil à la mairie de Giverny. On y relève qu'à ce mariage qui est marqué sur la page de gauche, mariage Monsieur Oscar Claude Monet et Monet Oscar Claude et Ringo, je ne sais plus son, ses prénoms, Émilie à un moment et Alice à la fin. Vous savez, on met le prénom courant, on le mettait toujours à la fin dans le temps jadis. Et il est marqué Ringo parce qu'elle était veuve et qu'elle avait donc elle n'était plus HD. Donc vous observez que le registre d'état civil est signé par Caillebotte et aussi par Helleu et par... Non, c'est tout. Les deux noms très connus. Voilà. Et d'autres, ça, c'est la famille. Donc, ça, c'est le 16 juillet. Et c'est amusant parce que c'est le numéro 371 et toc. Suzanne, donc celle-ci, va épouser Butler et le registre, on retrouve la signature du mariage de Monet et juste après, c'est le mariage de Butler Theodore Earl avec HD, Marie, Alice, Germaine, Suzanne. Alors je découvre, parce que j'avais dû déjà le lire évidemment, mais je ne l'avais pas mémorisé, que finalement elle porte plein de prénoms qui sont déjà dans la famille. Et ce mariage de Butler et de Suzanne a été notamment mémorisé par un tableau intitulé « La noce » signé Theodore Robinson. Donc vous voyez, deux mariages en cinq jours. C'est intéressant, hein, cette situation. Reprenons, début de ces années 90, une petite séquence tout à fait intéressante qui va vous raconter un peu comment ça se passe quand Monet est à Paris. Et c'est extrait d'un objet qui est le journal de Germaine. 94, elle a 21 ans et elle va effectivement consigner un peu dans un journal qui est en main familiale un certain nombre d'indications. Donc Noël approche. Germaine est en compagnie de sa mère et de Monet, vont à Paris pour aller faire des courses. Alors, quand ils descendent à Paris, ils descendent à l'hôtel Terminus, qui est à droite, à côté, à gauche, c'est la gare Saint-Lazare. Donc voilà une lettre à en tête de Terminus du 17 décembre, puisqu'ils vont faire leurs courses pour Noël, qu'ils fêteront évidemment à Giverny. Arrivé ici à 11h30, nous avons déjeuné et mangé de bonnes huîtres. Vous voyez, on n'oublie pas de manger. Hein. Puis nous avons été, maman et moi, faire nos courses tandis que M. Monet faisait les siennes. Quand M. Monet est revenu, nous avons été dîner au Café de Paris, à gauche. Délicieux dîner avec des sols aux épinards. Ça, c'était le plat préféré de Monet. Quelque chose d'exquis. Et aussi des grives. Bah oui, il ne faut pas se cantonner simplement à un seul plat. Après ce bon dîner, nous avons été voir jouer l'hôtel du libre-échange, la fameuse pièce de Feydeau. Il va au cirque, il va au théâtre. Nous avons ri comme il n'est pas possible de rire. Et en plus, Feydeau le fait rire. Le lendemain, une autre lettre, Monet vient de rentrer tout à l'heure, donc à l'hôtel Terminus. Il a dîné. C'est vrai que cette lettre, je ne l'ai pas dit parce que sinon ça serait un peu lourd, mais ce n'est pas cette lettre, c'est dans le journal. Il est minuit et demi quand elle l'écrit. Monsieur Monet vient de rentrer tout à l'heure. Il a dîné avec Monsieur Geffroy, Gustave Geffroy, le grand ami écrivain de Monet, Clémenceau, Cézanne et Joyant, que vous voyez ici. Je n'ai pas mis Clémenceau et Cézanne parce que ça, vous les connaissez. Joyant, c'était un marchand de tableaux, comme on dirait aujourd'hui un art dealer. Et tantôt, il a vu des choses admirables de M. Cézanne. 19 décembre, 1h du matin, dans le journal de Germaine. J'ai été faire des courses avec Agathe, Madeleine et Alice, c'est des cousines. Quand nous sommes revenus, j'ai été très étonné de trouver M. et Mme Mirbeau, voilà monsieur, avec maman. il était décidé que M. et Mme Mirbeau dîneraient avec nous, mais M. Renoir, donc Pierre-Auguste, le frère de M. Caillebotte, que vous avez ici, Marcel, et Duret, que vous avez à gauche. Ça, c'est un portrait de Théodore Duret, critique d'art écrivain, par James Whistler. Donc, il était décidé que M. et Mme Mirbeau dîneraient avec nous, mais M. Renoir et Duret sont venus nous enlever M. Monet et M. Mirbeau, de sorte que nous sommes restés seuls, donc les filles, les femmes, toutes les quatre, et après un bon dîner ici, nous avons été au gymnase, voir jouer Pension de famille. C'est de Maurice Donnet, c'est un écrivain de l'époque. Nous nous sommes beaucoup amusés et nous avons bien ri. Il y avait de jolies toilettes. M. Monet et M. Mirbeau sont venus nous rejoindre à 10h15, de sorte que les Mirbeau ont manqué leur train et n'ont pu prendre que celui de 11h. Vous voyez, c'est quasiment un emploi du temps de la SNCF. Tout cela était très drôle, on aurait dit que nous jouions un vrai vaudeville. Ça colle parfaitement avec, évidemment, tout un théâtre de l'époque. Alors, 4 janvier, toujours dans le journal de Germaine, ma grand-mère, M. Monet parle beaucoup d'aller voir Jacques en Norvège. Jacques Hochedé est à ce moment-là courtier maritime et il va partir, en effet, en Norvège, travailler, et donc Monet compte aller le voir début 95, et sans doute à la fin du mois. Autre indication comme ça, vous voyez dans ces lettres, Jean-Pierre et Michel vont avoir un professeur, il viendra mardi leur donner sa première leçon. Ça veut dire qu'on fait venir ici pour les petits, parce que eux, on est en 95, l'un est né en 77, l'autre en 78. Enfin, ils ne sont pas tout petits, mais on leur fait venir un professeur pour leur donner des leçons. Ça, c'est assez intéressant à noter. 10 janvier, hier, le garde-champêtre de Giverny est venu nous insulter sur le Marais. Il voulait nous faire un procès sous prétexte qu'on ne doit pas patiner. Ici, vous avez une photo de Jean-Pierre Hochedé en train de patiner sur le Marais. Changement d'époque, changement de climat, c'est pas aujourd'hui qu'on peut patiner sur le Marais. Hein. On pourra peut-être plutôt se mettre en maillot de bain et se tremper les pieds dans l'Epte. Monsieur Monet a été chez... Alors, c'est assez intéressant, cette histoire. Donc, le garde champêtre vient les insulter parce qu'ils sont en train de faire du patinage. Monsieur Monet a été chez Durdan, je crois que c'est le maire, et en payant, comme d'habitude, je pense que nous aurons la paix. Ça s'appelle un dessous de table, d'habitude. Bon. Mais bon, voilà. Lundi 14 janvier, toujours dans le journal de Germaine. Le dégel continue, il fait très doux, il ne reste presque plus. Monsieur Monet est parti à Paris pour le banquet Puvis-Chavannes, dont il fait partie du comité. Petite indication intéressante de l'intérêt de Monet pour Puvis-Chavannes. Et il est aussi à Paris parce qu'il doit régler le projet d'exposition des cathédrales de Rouen qu'il a enfin terminé. 15 janvier, ce matin, nous avons fait l'atelier à fond, Blanche et moi. Et nous avons eu bien du mal à être prêtes à 11h pour le déjeuner. 17 janvier, M. Monet a écrit ce matin, il a l'air assez content, il va revenir tout à l'heure, il était à Paris pour la préparation. Montaignac et Durand. Durand, c'est Durand-Ruel, le voilà. Et Montaignac, c'était un marchand. Veulent absolument des cathédrales. On est en 95, il va les exposer, mais déjà, les marchands veulent des cathédrales. C'est une époque où, ça y est, il a acheté la maison depuis quelques années, il a commencé à faire creuser le bassin, on en reparlera plus dans une autre séance. Donc, les choses vont mieux maintenant, complètement mieux. Le 18 janvier, Monet est revenu hier soir très fatigué mais assez content. L'exposition, celle des cathédrales, donc voici un dépliant, de M. Monet fixé au 20 mai et sera faite chez Durand-Ruel. M. Monet partira pour la Norvège dans 15 jours. Donc vous voyez que toute cette correspondance est très précieuse pour les historiens d'art pour essayer de bien recaler les éléments biographiques et en même temps, ça nous permet de vivre tout cela un peu en direct. Le 19 janvier, M. Montaignac est venu à Giverny, il a acheté une cathédrale, ici, c'est celle-là qu'il a achetée, le portail Tour d'Albane, une des plus belles. Cela me nave de les voir toutes partir, il a plu toute la journée et il pleut encore à torrents. Alors, je vous disais que Jacques était donc parti en Norvège en 1894, puisqu'en janvier, Monet va aller lui rendre visite. Quand il revient à la fin de l'année, il revient en compagnie d'une femme qu'il a rencontrée là-bas, Inga Jørgensen, qui est une femme divorcée et qui a une fille adolescente qui s'appelle Anna. Les trois, Jacques, Anna, Inga et Anna, vont s'installer à Saint-Servant, à côté de Saint-Malo, et lui, il va occuper un poste de courtier maritime. Mais surtout, une chose qui est intéressante, et là, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est qu'en fait, cette relation de Jacques avec cette Norvégienne divorcée, avec une fille qui ramène, pardonnez-moi la formule, dans une époque féministe, qu'il ramène à Giverny, mais on est au 19e siècle, c'est pas tout à fait en odeur de sainteté pour Alice et pour Monet. Et si bien qu'ils vont se marier, ils vont mettre beaucoup de temps avant que Inga soit présentée à la famille. Ceci étant, je trouve qu'ils étaient quand même un peu sévères. Ils ont quand même vécu 14 ans en concubinage. Hein. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, un nouveau mariage, le 16 mai 1896. Donc, la photo, pour vous montrer Jacques, c'est celui qui est tout en haut. Le voilà, avec la fille et la mère. Le personnage au milieu, vous l'oubliez, ou alors je vous dis que c'est Pierre Ciselet. Ça, c'est une photo d'un autre mariage, donc s'il arrive tout de suite, je crois. Non, pas tout de suite, c'est plus tard. En tout cas, c'était pour que vous voyez Jacques. Alors, à droite de la photo la plus grande, Inga, la Norvégienne, et la fille de Inga, un peu plus grande déjà, puisque là, on doit être en 1900. Que ce mariage a eu lieu en 96. Et encore un mariage. Il ne faut pas compliquer la sauce. C'est-à-dire qu'à la surprise générale, Jean Monnet et Blanche Hochedé vont révéler à leur entourage familial les sentiments amoureux qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Alors, là encore, Monnet et Alice... sont un peu déboussolés quand même. Hein. C'est la fille et la belle-fille, et c'est le fils et le beau-fils. Mais bon, c'est pas consanguin. Donc, ils acceptent le principe du mariage. Alors, je remets cette photo parce que il y a quand même un destin, quoi. Ils sont à côté l'un de l'autre dans cette photo Blanche et Jean. Comme si c'était inscrit. Moi, je trouve ça fascinant. 19 mars, Jacques, avec la Norvégienne qui habite à Saint-Servin, envoie une lettre à Alice. « Je comprends combien Monet et toi, vous devez avoir de mal à vous habituer à cette idée du mariage de Jean et de Blanche. Mais du moment qu'ils s'aiment, c'est le principal. » Bah oui, lui, il est revenu avec une Norvégienne divorcée. Donc... Je ne trouve, du reste, rien d'extraordinaire à cela, ayant toujours été ensemble. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est la manière dont ils ont si bien caché leur jeu. Peut-on déjà leur écrire à ce sujet? Et voilà Jean et Blanche installés à Rouen, puisque Jean va aller travailler pour le frère de Monet, qui a une entreprise de chimie et de colorants et de tissus à Rouen. C'est lui d'ailleurs qui est Léon Monet, le héros en ce moment de l'exposition qui se trouve à l'Orangerie du Sénat et que je recommande. C'est une expo assez intéressante parce que moi-même j'y ai appris plein de choses que je ne savais pas sur cette époque, notamment où Jean travaille chez son oncle. Donc c'est intéressant. Et puis lui-même a beaucoup aidé, le frère a beaucoup aidé Monet à une certaine époque de sa vie. Donc ce mariage de Jean et de Blanche fait que, après avoir été la belle-fille du peintre, par le mariage de Monet avec sa mère en 92, pendant 5 ans, la voilà qui devient la Bru. J'aime dire qu'elle a d'abord été la belle-fille et ensuite la Bru. C'est un très beau mot de la langue française. Donc c'est une situation évidemment qui ne peut que renforcer les liens d'affection des familles Monet et Hochedé. Et évidemment de Monet et de Blanche. Puisqu'ils avaient tous les deux la même passion pour la peinture. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de mariages. Mais hélas, la vie, elle est comme ça. Il y a aussi des décès brutaux. Et le 6 février 99, à 32 ans, c'est Suzanne qui meurt. Suzanne, mariée à Butler, avec les deux enfants, les cheveux clairs, c'est Jim Butler, et les cheveux plus foncés, c'est Alice Butler, dite Lily. Lily est l'aînée, Jim est le cadet. Alors, voilà, c'est ça, c'est un roman, cette histoire de la famille Hochedé Monet, puisque, évidemment, le voilà veuf, Butler. Donc, comme Monet a connu la chose, et comme Alice aussi, puisqu'elle a été veuve à un moment. Voilà. Et il va repartir un petit moment aux États-Unis et il va partir avec sa belle-sœur Marthe, qui s'occupe des enfants. Mais en fait, Marthe avait toujours été amoureuse de Butler. Donc, au retour du voyage, encore et toujours un mariage. Butler va épouser Marthe. Et donc Marthe, qu'on voit Marthe et Blanc et Butler tout en haut de la pyramide, il y a Jean-Pierre Hochedé derrière Butler, les voilà. Le 30 mars donc 1900, Butler, veuf, épouse sa belle-sœur qui élèvera comme ses enfants sa nièce et son neveu. Au début de ce XXe siècle, il y a un événement assez incroyable quand même qui advient. C'est tout d'un coup une sorte de retour de mémoire, ce que j'appelle volontiers le retour à Lavacour. Lavacour, c'est le hameau, le lieu-dit, qui est en face de Vétheuil de l'autre côté de la Seine. Ça dépend de la commune de Vétheuil. Vétheuil, c'est là où il a perdu sa femme, sa première femme, où elle est enterrée. Et voilà qu'en juillet 1901, Monet, il y a une espèce d'appel de retour sur cette terre-là, qui n'est pas loin de Giverny. Le 5 juillet, alors qu'elle est à Lavacour, Alice écrit à Germaine, qui est ailleurs, « Monet, depuis que nous avons reconduit Fernand, c'est un ami de la famille, ne parle que de peindre à nouveau Vétheuil. Il y a ici un petit chalet à louer et Monet va le prendre pour mettre ses toiles. La vue est admirable et si cela peut remettre Monet, tu penses quelle joie au milieu de ma peine. » Elle parle de son deuil de sa fille Suzanne 2 ans auparavant. Le 6 juillet, elle écrit « Ce sont là des projets si Monet travaille, mais j'ai si peur qu'il ne s'y mette pas encore. Cependant, il a loué le chalet de Lavacour. 8 juillet, j'espère que Monet va travailler. Les toiles et les chevalets y sont depuis hier et on apporte table et fauteuil. Je voudrais bien un lit, car je voudrais y rester, c'est si gentil. Blanche rêve d'y passer quelques jours. Marthe et Earl, Butler, vont demain remonter à Lavacour la norvégienne, donc la barque. Tout Vétheuil est révolutionné par notre location et croit que nous revenons tout à fait. » Comme si, tout d'un coup, Monet abandonnait Giverny, en fait. Monet a enfin repris ses pinceaux, écrit-elle quelques jours plus tard, toujours à ma grand-mère qui n'est pas là, et commencer une vue de Vétheuil. Mais je tremble, ou qu'il ne soit pas satisfait, ou que le temps change, car tu sais combien tout le trouble, et surtout lorsqu'il s'y remet. 10 juillet, je commence ici ma lettre pour demain, et si, au calme, si bien devant ce paysage splendide, et Monet travaille. Un vrai paradis que je voudrais ne plus quitter, elle aussi, ça y est, elle trouve que c'est encore mieux. Chaque jour, j'y apporte un meuble, une natte, sans oublier whisky et madère. 12 juillet, je tremble chaque jour en allant à Lavacourt, parce qu'ils y habitent pas, hein, ils viennent dormir ici, car Monet se dépite déjà de ce qu'il fait et dit qu'il regrette son jardin qui est bien plus beau à peindre que tous les Vétheuil. Donc voilà, ça a été une espèce de moment. Il avait envie et puis ça a duré. Il a fait quelques tableaux, très beaux, comme une sorte de, c'est un retour dans la mémoire de peut-être de Camille, 20 ans après sa mort, 30 ans presque, oui, 30 ans après sa mort. Alors, en octobre 1904, ils vont partir faire un voyage en Espagne. Il y a très longtemps que Monet, effectivement, aspirait à aller à Madrid pour visiter le Prado et y voir les Greco. On en reparlera de manière plus déliée, parce que le voyage vaut vraiment son pesant d'or, comme on dit. Conduit par son chauffeur Sylvain, ils partent en auto à bord de la Panhard, en compagnie donc de Alice et de Michel. Et ils descendent en voiture jusqu'à Biarritz pour y prendre le train et poursuivre jusqu'à Madrid, puis Tolède. Mais tout ça, je le raconterai à travers les lettres qu'Alice continue d'envoyer tous les jours à Germaine. Et là, c'est quand même une expédition, hein. On n'est pas au 21e siècle, c'est au début du 20e. C'est-à-dire que quand ils font Giverny-Biarritz, ils le font en 4 jours, à 30 à l'heure et 12 heures par jour, avec tout ce qui peut arriver, parfois de pénurie et de crevaison. Nous verrons ça plus tard. 1907, une petite virée chez les sœurs Tatin, ça fait jamais de mal. Alors, c'est connu qu'effectivement, Monet aimait beaucoup la tarte Tatin. Celle des nymphéas, je ne fais pas de la publicité, mais il y a le restaurant Les Nymphéas où j'en ai pris une tout à l'heure avec ma tasse de thé. Je me mets dans la mémoire de tout le monde. Elle était délicieuse. Alors, voilà, là, c'est une petite séquence qui me plaît aussi. À cette époque-là, ma grand-mère est mariée. Peut-être je vous raconterai aussi le mariage de ma grand-mère, mais vous savez, vous pourrez faire ça tous les soirs pendant pas mal de temps. Hein. Là, elle écrit, donc, ma grand-mère habite Cagnes. On est le 12 mai, il me faut écrire ce soir car je crains de ne le pouvoir demain. Nous partons pour les Tatins à 6 heures du matin. 13 mai, ils sont à Annette, pas loin d'ici. Nous voici en panne à Annette, nous venons de crever et nous marchions si bien. Pauvre Jean-Pierre, il ne va pas avoir d'agrément à remettre le pneu. Les butlers sont partis de leur côté avec Sylvain, c'est le chauffeur de Monet, à 6 heures. Les gens Monet, idem, mais dans leur voiture, et nous à 7 heures. Mais nous voilà bien retardés par cette crevaison. Ah oui, c'est toute la famille. Hein. Midi, Tatin. Donc ils sont arrivés. Nous voici arrivés après un vent et un froid glacial. Ce que je regrette, les pots pour se couvrir dans la voiture. Désillusion. Ce ne sont plus les Tatins, mais les successeurs, qui s'appellent Bourset. Vous voyez la lettre en tête. Mardi 14 mai. Après 30 degrés que nous avons eu dimanche, aujourd'hui, c'est un vent glacial qui nous gèle. Aussi, nous sommes pas mal restés dans l'hôtel apprenant à faire la fameuse tarte. Mais malgré tout, cela ne vaut pas la première. Celle de l'an dernier. L'après-midi, nous avons été voir un élevage de faisans gibiers de toutes sortes. Après déjeuner, les gens Monet sont partis à 6 heures, 18h, nous allons allonger notre départ en allant voir Chambord, à 40 km. 15 mai, nous voici rentrés à Giverny, mais vraiment par le chemin des Écoliers. Après Orléans, Rambouillet, Houdan, Mantes, heureusement sans panne. C'est admirable, mais il faisait froid, j'ai regretté mes peaux. Ici, le jardin est de plus en plus beau, car voilà tous les iris blancs fleuris. Petite escapade chez les sœurs Tatin. Petite parenthèse, je crois que c'est avec France 3 Région, ils sont en train de faire un film sur les sœurs Tatin. Et je vais aller tourner avec eux à la Motte Beuvron et leur faire bénéficier de toutes ces lettres, parler un peu de cette aventure et surtout de la table de Monet. Une petite séquence, juste un mois plus tard, qui est très intéressante, c'est une petite virée à Tours. Pourquoi Tours ? Parce que Tours est une place où on trouve les domestiques. C'est comme si, il y avait, une agence d'emploi pour des domestiques. Beaucoup venaient de Bretagne. Donc, on lit dans une lettre d'Alice à sa fille toujours qui habite dans le sud, écrite du grand hôtel de l'Univers à Tours, « Après un excellent voyage sans panne, nous sommes arrivés ici ne mettant que 4 heures de Giverny. Que 4 heures de Giverny, hein, Tours. Je vais ce matin me mettre en campagne, non seulement pour trouver un ménage, mais aussi une bonne pour Blanche. C'est un peu terrible, parce qu'on a l'impression qu'ils vont faire leur course, quoi. C'est un peu dur. Espérons que nous réussirons. Monet, en voyant le temps si affreusement mauvais, m'a accompagné. Donc, c'est une vraie partie de plaisir. Je pense qu'elle parle des dîners et des déjeuners. En même temps qu'un repos. On est bien ici, on y mange admirablement. La preuve. Plus tard, elle écrit. J'ai vu beaucoup de ménages, bien, dont un qui n'a fait qu'une place, 15 ans de service. Et les maîtres, morts, mais l'homme était plutôt coché. Enfin, tantôt nous allons en voir d'autres et en ramènerons sûrement avec nous. Je ne trouve rien pour Blanche. 15 juin, le lendemain. Toujours ici, nous n'en partirons qu'à 1 heure, emmenant un ménage. Espérons que nous aurons réussi. Ces gens sont de vrais serviteurs, ils n'ont fait qu'une seule place. La femme m'a d'abord fait peur, une grande sèche avec un nez énorme, mais très bonne cuisinière et l'air si propre. Le dimanche, nous avons fait un bon voyage, ils sont rentrés, mais les domestiques n'ont pas trouvé l'auto de leur goût. Eh oui, ils devaient pour la première fois monter dans une voiture. On est quand même qu'en 1907, hein, faut que s'en rappeler. C'était un terminal, disent-ils, et le soir, ils me disaient qu'ils ne resteraient pas. Boum. Tu penses si nous étions navrés. Ce matin, ça a l'air d'aller mieux. Le lendemain, 18 juin, les domestiques ont l'air de prendre plus de courage. Puissent-ils rester, car je crois que ce sont de bons, braves gens. Elle ne met pas de beurre dans la cuisine. Quelle économie ! Un autre élément de cette année 1907 qui est très important dans la vie de Monet, c'est sa passion pour les voitures. Pas pour les voitures seulement, pour les courses de voitures. Et notamment la fameuse course de côte qui est à Gaillon. Exemple ici, en octobre 1907, « Demain, c'est Gaillon. Je dis c'est Gaillon et cependant Monet a décrété que s'il pleut comme il a plu hier, il n'ira pas. » Caractère, Monet. Hein. Le 21 octobre. Donc le surlendemain. J'ai eu bien des péripéties hier, car en se levant, Monet, voyant encore la pluie, m'a décrété qu'il n'irait pas à la course. Je fais prévenir les Jean-Pierre qui devaient y venir, puis les butlers, et au moment où Michel partait, Monet me crie de m'habiller, que le temps s'arrange. Je t'assure que j'avais eu le cœur bien gros de cette partie manquée, et nous avons eu un temps merveilleux, même un soleil trop chaud. La course n'était pas d'un intérêt palpitant, mais nous nous sommes bien amusés. Et surtout, nous avons bien mangé. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Pique-nique au bord de la route. D'autant plus que, le soir, quand il rentre, grand dîner chez Marthe, Monet fait venir un garçon de chez Prunier, grand restaurant parisien. Il avait fait venir un garçon avec 100 huîtres, une centaine d'huîtres, qui avait pris le train. je pense. Vite engloutie, exquise. « Je te griffonne bien à la hâte », écrit-elle un peu plus tard. « Céline, car je vais partir au marché, j'ai beaucoup à faire. Achète la vie illustrée de cette semaine si tu veux nous voir à Gaillon avec la vieille Panhard. » À la une de la vie illustrée, Monet, superstar, assiste à une course de côte. Finalement, si on fait des équivalences, combien de fois on a vu Picasso à la une des journaux ? C'était devenu un peu plus commun parce que médiatiquement on était habitué, mais c'est ça qui est intéressant. Où on en arrive à une exposition très importante, dont il me semble on n'a pas encore suffisamment fait état en termes, je trouve, d'histoire de l'art. Mais bon, il s'agit d'une exposition que Monet va préparer pendant 6 ans. De 1903 à 1908, Monet s'attelle à réaliser toute une série de tableaux exclusivement consacrés au thème des nymphéas. L'exposition va se tenir en mai 1909. C'est la première et la seule exposition du vivant du peintre uniquement réservé aux nymphéas. Donc une exposition essentielle quand on prend le recul d'aujourd'hui, et cela n'est pas allé sans difficulté. Voilà un certain nombre d'extraits de lettres qui permettent d'en prendre la mesure. On est en 1908, mois de mars. Ce matin, Monet écrit à Durand-Ruel une lettre très raide refusant ses conditions. Et je pense que là-dessus, l'exposition n'aura pas lieu. Le 10 avril, Monet semble bien mieux, mais sans doute parce qu'il a pris sa décision pour l'exposition. 15 avril, mon pauvre Monet est toujours bien anxieux de son travail. La journée d'hier a été mauvaise pour lui. Il a détruit 3 toiles et c'est hélas souvent ainsi. 16 avril, il ne s'en prend qu'à lui-même, à sa vieillesse. Attendez, on est en 1908, il a 68 ans, quand même pas un vieillard. Il ne s'en prend qu'à lui-même, à sa vieillesse, à son impuissance, soulignée, dit-il. Et cela est injuste de voir traiter ainsi un travail de 6 années. 24 avril 1908, toujours. Tu me demandes la date de l'exposition alors que chaque jour, je me demande si elle aura lieu. Je passe des jours terribles à voir son anxiété, son découragement. Ça veut dire certainement aussi l'importance qu'il prêtait à cette opération. Vous vous rendez compte, une exposition qu'il a préparée pendant 6 ans. Si vous êtes un peu dans le monde d'aujourd'hui, de la production artistique contemporaine des artistes de la même trempe, mais une exposition, ils ne la font pas pendant 6 ans. Ils vont la préparer 3-4 mois et puis ils vont la faire. Mais voilà, le temps a changé. 30 avril, mon pauvre Monet, désespéré, a écrit à Durand qu'il renonce à l'expo. 1er mai, Monet est toujours bien découragé et je ne crois pas qu'il revienne sur sa détermination. Aujourd'hui, il n'a pas mis les pieds dans son atelier. 1er mai soir, Monet n'est pas mieux et je doute fort qu'il fasse son exposition. C'est un grand malheur, mais il n'accepte pas de conseils à ce sujet. 3 mai, Monet enfermé dans l'atelier. Et de quelle humeur ? 4 mai, Monet déjà mal disposé le matin, a refusé de venir déjeuner et est resté enfermé tout le jour malgré nos supplications. Mon Dieu, que c'est triste quand on a la santé, le bonheur de rendre la vie un enfer. Oui, mais un artiste, il fait une œuvre. Et l'enjeu est colossal. 5 mai, mes journées d'Italis sont toujours lugubres, en face de Monet déconcertant. Monet a écrit au père Durand qu'il fermait sa porte à tout le monde. 7 mai, rien ne peut te donner une idée de sa tristesse, de son abattement. J'en suis anéanti. Il ne met plus les pieds dans son atelier. Dans l'atelier au Nymphéa. L'atelier au Nymphéa, à ce moment-là, ce n'est pas le grand atelier. C'est l'atelier qu'il a, c'est le deuxième, puisque le premier c'était ici, et dans lequel il a de l'espace qu'il avait fait remettre en état dans les années 90. Donc ne pas confondre les deux ateliers. Il y a trois ateliers au total, et après l'atelier des grandes décorations des nymphéas. Reste ici même sans lire, et dès que je m'absente, s'endort. 8 mai, Monet triste, découragé, désespérant, il reste dans l'atelier sans bouger, sans parler, c'est navrant. Le 14 mai, le triste état de Monet se prolonge bien et c'est désolant pour lui. D'abord, qui perd des jours précieux, et ensuite pour ceux qu'il aime. 21 mai, Monet a reçu une longue lettre de Mirbeau, ne lui ménageant pas les compliments et cherchant à le remonter. Heureusement, sa voix autorisée y arrive mieux que nous, et il relit cette lettre avec joie et semble moins au noir. Donc, ouf, un copain qui s'appelle Mirbeau va lui redonner confiance. 25 juin, voilà enfin mon cher Monet qui se remet au travail. Ce n'est pas trop tôt et j'en suis bien heureuse, pourvu que le temps reste au beau. Pardon, non, c'est bien ça. Aussi, je surveille le baromètre bien anxieusement. 16 juillet, on est toujours en 1908. Voici le temps tout au gris et mon pauvre Monet désolé. Vous voyez, c'est vraiment des hauts et des bas. Car il ne peut continuer ses études faites à un soleil intense. 21 juillet, Monet essaie de se remettre au travail, mais malgré toute sa patience, n'y peut arriver, car tout se transforme et surtout avec le vent. Alors, il est totalement absorbé par ses nymphéas. Et Alice, elle vit ça quand même d'une manière très proche, très intime, et elle est un peu épuisée. Et donc, elle essaye de dire à Monet, mais on est invité par une amie américaine, anglaise, pardon, à aller à Venise. Ce serait peut-être bien de marquer un break. Et finalement, Monet accepte. Il accepte, mais le 27 septembre, au moment où ils sont presque sur le point d'y aller, Monet, fort triste de s'être engagé à partir à Venise, le beau temps étant revenu, il ne peut se décider à abandonner son bassin et ses fleurs. Et puis Monet et Alice vont séjourner finalement, pas 15 jours, 3 mois à Venise. Il était parti avec un peu de matériel, au cas où, finalement, il en fait venir. Quand il repart de Venise au début décembre, il revient avec 37 toiles commencées sur le motif. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir à la tête, toujours. Monet fait des commencements, comme il les nommait lui-même, sur le motif. Et il les achève à l'atelier, avec la mémoire. C'est-à-dire que c'est très intéressant au niveau de l'analyse esthétique, car vous avez deux registres. Le registre du vécu sur place et le registre de la mémoire, donc l'éprouvé et le mémoriel. Et c'est vrai que ça donne des beaux résultats, puisqu'il revient en 1909. Mirbeau, qui vient le voir, parce qu'il veut voir les tableaux de Venise, qui ne sont pas finis. Mirbeau a été dans l'admiration des Venises. Il ne revenait pas de tant de travail et de si belles œuvres. 27 janvier, voilà Durand-Ruel qui demande à venir, et je redoute cette corvée. Il veut faire l'exposition des nymphéas, donc celle qu'il avait préparée, en mai, sans doute pour faire la nique au Bernheim, autre galeriste, qui, eux, ont eu de Monet la primauté des Venises, qu'ils feront plus tard. Donc vous voyez, les grands marchands, les très grands marchands de Paris à l'époque, ben, se disputent Monet. Ça veut dire aussi que, voilà, Monet, lui, il a pu chercher, enfin, il y a longtemps qu'il a pu chercher un galeriste, évidemment. Mais on veut avoir des tableaux. Et vous avez ici une très belle peinture de Édouard Vuillard qui représente les frères Bernheim dans leur bureau en 1912 avec un tableau de Venise qu'ils ont acheté à Monet. Parce qu'il l'avait donc promis de réserver. Premier février, on est 1909. Décidément, Monet va faire l'exposition des nymphéas en mai chez Durand. 6 février. Hier, le père Durand est arrivé à 9h, reparti à 3h. Toujours aussi rasant, disant que l'idée de ne pas avoir de Venise l'a rendu malade. Et qu'il l'est plus encore en les voyant. Et il voit notamment cette magnifique gondole qui est le dernier jet que Monet peint à Venise au début décembre, juste avant de partir. Le 30 mars 1909, Monet va à Paris. Il s'y est décidé hier subitement pour voir son encadreur. 18 avril, Monet est fort nerveux. Voilà la date de l'exposition des Nymphéas qui s'avance, le 5 ou le 6 mai. 21 avril, mon pauvre Monet est si grincheux en ce moment que je n'ose lui dire la moindre chose. Il se fait un mauvais sang terrible pour cette exposition, grattant, abîmant encore des toiles. Cela rend la vie vraiment pénible. C'est cette exposition qu'il a préparée pendant 6 ans. 26 avril. Enfin, heureusement, voici les derniers mauvais jours, car à partir de jeudi, Monet emballe les toiles. Prosper viendra pour cette opération qui est longue et difficile. Il devrait y avoir 40 toiles, mais Monet en a beaucoup détruit. L'exposition aura lieu le 6 mai. Et voilà la fameuse exposition des Nymphéas, la seule, unique, uniquement des Nymphéas, intitulée « Les Nymphéas, série de paysages d'eau ». Je crois que nous partirons le lundi 3 à Paris, 3 mai. Je voudrais bien que ce soit fini, car Monet s'énerve et il voudrait se mettre tranquillement au travail. Parce qu'il va livrer au regard public tous ses Nymphéas, 48 tableaux. Et c'est la première fois qu'il n'y aura que cela. Monet, 29 avril, qui était mieux, se replaint de ses maux de tête. Cela n'a rien d'étonnant avec le coup de collier qu'il donne. Il commence demain l'emballage. Quelle affaire, et que tout cela rend nerveux. 30 avril, j'ai aidé Monet à classer ses 48 toiles de Nymphéas. Alors ça, c'est un document absolument précieux. C'est le livret de l'exposition où vous voyez que la déclinaison des 48 toiles est quasiment mathématique. 1903, numéro 1. Série 1904, 5 tableaux, numéro 2 à 6, et etc., etc. Quand même assez étonnant. C'est peut-être la première fois que dans l'histoire de l'art, un artiste qui fait une exposition qui s'avérera être essentielle, cette exposition, présente ces tableaux sous un intitulé général « Les Nymphéas, série de paysages d'eau » et puis les décline pour les distinguer en numéros. Et là, Monet inaugure quelque chose de totalement nouveau qui va faire florès par la suite dans l'art contemporain. Enfin, dans l'art qui suit plutôt, parce qu'il est contemporain, évidemment. Numéroter des toiles, c'est quelque chose qui est devenu assez... par exemple, on peut les numéroter de différentes façons. Si je prends Pierre Soulages datait ses toiles... intitulait ses toiles du jour où il le faisait. Ce qui est très commode pour l'inventaire. Ce n'est pas une petite affaire à classer tout ça. Tantôt Prosper, arrivé hier, va les emballer. 30 avril au soir... Oui, voilà tous les grands préparatifs qui commencent, puisque c'est le 5-6 mai, l'exposition. Il y a 48 toiles, et le brave homme, Prosper, dit « Cela, c'est du nouveau ». Ça, c'est vraiment magnifique, parce que c'est celui qui n'est pas spécialiste qui dit « ça, c'est vraiment nouveau ». Et donc, il a raison. Voilà 4 de ces 48 toiles. Où il y en avait donc quand même un sacré paquet. Et c'est essentiel. C'est avant les grandes décorations. C'est des tableaux incroyables où Monet va complètement absorber l'horizon. On ne le voit plus. Et donc, la surface du bassin, qui est une surface horizontale, va occuper un espace vertical. Ça, c'est un balancement qui est capital. Capital dans l'histoire de l'art. Et le tableau qui est à Vernon. 4 mai. J'ai bien trouvé ta lettre à Terminus. Monet, qui n'était pas très en train ce matin, est rentré déjeuner plus remonté. Je l'attends. Nous dînerons tranquillement ici à Paris, car je crains la fatigue. 6 mai. Merci de votre dépêche. Elle reçoit des petits mots de tout le monde. Grand, énorme succès pour mon Monet. Quelle joie pour moi, quelle journée inoubliable que je vous ai regrettée. En hâte, nous partons dîner. Nous prenons le train pour rentrer tout à l'heure, bien heureux, et mon pauvre Monet, avec un grand mal de gorge et de tête, il était si fêté, si admiré, si heureux hier, mais Paris ne lui va pas. 8 mai, nous voici enfin rentrés et bien heureux, mais Monet a mal à la tête. 28 mai, donc 20 jours plus tard, je crois que Durand va prolonger l'exposition de Monet pendant une semaine encore. Comme il y a toujours du monde, il n'est pas pressé de la fermer. Nous sommes donc en mai 1909. Début 1910, une terrible inondation, la fameuse inondation de 1910. Alors, entre-temps, vous l'avez vu, ils sont allés à Venise, et depuis qu'elle est rentrée de Venise, Alice est malade. En fait, elle est atteinte d'une leucémie. Donc, c'est généralement rédhibitoire. Donc, 24 janvier, ici, voilà Monet désespérée. 24 janvier 1910. Ici, voilà Monet désespérée. Tu as dû savoir les inondations terribles partout. Voilà le bassin qui s'en mêle. Il déborde. Toutes les plantes du bord s'en vont à volo. Il a fallu attacher les petits ponts. Tu juges du désespoir de Monet. Les inondations partout sont effrayantes. Le marais est tout inondé. 25 janvier, c'est le déluge universel. Des fenêtres chez Monet, on ne voit plus qu'une immense nappe d'eau qui rejoint l'Imetz. La route de Vernon est inondée. Il faut y aller par Bois-Jérôme, par au-dessus. Le pauvre bassin est débordé, les allées inondées, c'est navrant. L'eau a monté en une nuit de 25 cm. 28 janvier, l'eau monte toujours, mais il gèle ferme, 12 degrés cette nuit. Espérons que cela va enfin baisser. Hier, c'était un spectacle merveilleux, avec le givre et le soleil, tout se reflétant dans ce miroir d'eau qui va d'ici à la Seine. C'est navrant de voir le pauvre bassin. Les grandes ronces émergent seules. Les rodeaux d'un dron azalé sont sous l'eau. Les petits ponts flottent, retenus par des chaînes. Et le grand pont menace d'être enlevé. Tu vois dans quel état est Monet. Toujours même spectacle, 28 janvier, et qui s'accentue d'heure en heure. On voit l'eau monter avec une telle rapidité qu'on se demande ce qui va arriver. Monet est dans un état de désespoir qui augmente encore le désastre des choses. 30 janvier, mon pauvre Monet me fait passer par de cruelles heures, par son découragement et sa mauvaise humeur. Tous nous prenons cependant bien part à ses ennuis, auxquels hélas nous ne pouvons rien. Je voudrais voir la baisse pour que Monet reprenne courage. La grille est grande ouverte, en bas de l'allée. On vient en bateau à moitié de l'allée. 31 janvier, nous sommes de plus en plus navrés des dégâts affreux pour le bassin et le jardin, et par-dessus tout, du désespoir de Monet. Le temps est clair et beau. On dit que la Seine a baissé à Paris, mais hélas, ici, l'Epte monte encore. 3 février, enfin l'eau commence à baisser. Un peu dans le jardin, mais si peu. En revanche, Monet est de plus en plus inabordable. Entre nous, tout est perdu, les affaires ne reprendront jamais, il faut vendre maison, auto, etc. C'est triste de se laisser aller ainsi, de le voir si au noir. 9 février. Voici l'eau qui baisse. Monet a pu aller au bassin. On ne voit pas encore les dégâts, mais les 3 petits ponts sont enlevés. Heureusement qu'on les avait attachés, sans quoi ils seraient partis. 10 février. Bien heureusement, il y aura moins de dégâts que ne la craint Monet. Mais pour le moment, tant de belles plantes sont couvertes de vases, de pailles, de bouchons, même de chats morts. C'est une infection. Aussi, Monet reste toujours bien triste et sombre. C'est vraiment décourageant. Voilà l'eau tout à fait retirée du bassin. Mais c'est dans un triste état, 11 février, quoiqu'il y ait moins de dégâts que nous pensions. Donc, sans doute, pour Monet, on n'a pas de photo de ce moment désolé et désolant, mais ça devait être sérieux. Et la maladie d'Alice ne s'arrange pas. Alice va mourir, à peu près un an plus tard, des suites donc de cette maladie, le 19 mai. Elle est alors âgée de 67 ans. Marthe, Blanche, Michel prennent tour à tour la relève d'Alice pour envoyer des lettres, notamment à Germaine, et l'informer des nouvelles de Giverny. Et évidemment, Monet, deuxième fois veuf, traverse une période de dépression, il ne peint plus. La photo, alors Monet est triste, même s'il essaye de se remonter un peu, que ça c'est Marthe qui envoie une lettre à Germaine, en lui disant que ses lignes lui font plaisir. Jeudi 15 juin, Blanche envoie une lettre à Germaine avec une photographie d'Alice, datée juillet 1910, dans laquelle derrière il y a marqué « Amène chérie pour sa fête ». Dernière photo de maman bien-aimée, faite l'été passé, on est en juin 1911, au bassin alors qu'elle était si heureuse d'aller mieux et de se sentir un peu revivre. 16 juin, ce pauvre Monet, donc elle est morte, hein, je l'ai dit le 19 mai, 16 juin 1911, c'est Michel qui écrit à Germaine, ce pauvre Monet est toujours bien triste, quel malheur qu'il ne puisse se mettre un peu à travailler, je crois que cela serait pour lui le meilleur réconfort et la seule chose qui pourrait lui changer les idées. 22 juin, Marthe envoie un petit mot à Germaine, toujours la même chaleur accablante. Hier avant son déjeuner, Monet a été pris de malaise et n'a pas pu aller à table. J'en accuse la chaleur et j'espère que cela ne se renouvellera pas car il est mieux aujourd'hui. Lui dit que c'est le moral car il est bien triste et découragé. Fouillant toujours, lettres et papier, ce qui lui fait beaucoup de mal. Il relit les lettres d'Alice, etc. 20 juillet, 2 mois que notre maman bien-aimée nous a quittés, chaque jour en arrivant, c'est Marthe qui écrit, Marthe Butler, qui est mariée avec Butler et qui habite un peu plus loin, elle vient chaque jour voir Monet, chaque jour en arrivant, je vois sa fenêtre fermée, la fenêtre de la chambre d'Alice, les persiennes closes, tout est morne et silencieux, et Monet m'attend, la tête dans ses mains, assis sur une chaise sous les tilleuls, que c'est pénible. 3 août, quand j'ai donné cette photo, celle-ci, au pauvre Monet, sitôt que j'ai eu la première épreuve, elle a été pour lui, il a été dans un tel état de bouleversement que je ne savais plus quoi penser. Il a pleuré toute la journée, disant qu'il croyait la revoir, et son émotion a duré fort longtemps. Maintenant, il s'y est habitué, il l'adore, ne veut plus la quitter, la conserve sur la table devant laquelle il reste des heures en contemplation, elle est là, la photo. 28 août, Marthe écrit à Germaine. Renoir, j'avais même mis ici, vous voyez, elle était sur sa table. Là, ils l'ont mis sur l'autre table à côté du buste. 28 août 1911, c'est Marthe qui écrit à Germaine. Hier, Renoir est venu en auto avec son fils Pierre et la fidèle Gabrielle. Les voilà tous les trois. Déjeuner avec Monet, qui était très heureux et touché, car c'est vraiment gentil à Renoir, dans l'état où il est, il n'était pas en forme, d'affronter tant d'auto et de fatigue. Monet a été bien content de sa visite, ça lui a fait du bien. Pendant que je t'écris, Clémenceau vient d'arriver, voir Monet, et j'en suis bien contente, car les visites lui font grand bien. Cela le distrait, il lui en faudrait tout le temps, mais ce n'est pas facile. En tout cas, c'est bien gentil à Clémenceau de ne pas l'abandonner. Épilogue. Bien sûr, Monet a encore une œuvre fondamentale à faire, c'est les grandes décorations. Mais comme je l'ai dit, je garde cela pour une séance réservée uniquement à cette période. Donc, on va terminer sur cet épilogue avec une lettre de Monet envoyée le 26 avril 1912 de Giverny à ma grand-mère à Cagnes. Et vous voyez, le papier à lettres est bordé de noir. Claude Monet, donc, à Giverny. Claude Monet à Giverny envoie cette lettre à Germaine et lui propose de venir passer quelque temps ici. Et voilà cette lettre. « Ma chère Germaine, je te remercie de toujours m'écrire sans que tu reçoives de régulières réponses, mais tu sais que la correspondance n'a jamais été mon fort. » Je fais une parenthèse. Dans le catalogue raisonné de Monet, je crois qu'il y a plus de 2000 lettres de Monet. Donc, je veux bien croire que ce n'est pas son fort, mais il écrivait beaucoup. C'était surtout une époque où on écrivait beaucoup. Ma pauvre Alice savait m'épargner cela et écrivait pour moi. Et puis en ce moment, non seulement je suis très pris par mes toiles de Venise, dont je suis arrivé à faire des horreurs, si bien que j'en suis énervé et dégoûté, mais je ne veux pas te rabâcher mes plaintes. Alors, il faut le dire en un mot, et je le raconterai pour les voyages, dans cette dépression qu'il traverse entre mai 1911 et le printemps 1912, il va se remettre à peindre, c'est Clémenceau qui va lui envoyer une lettre en lui disant que s'il ne reprend pas ses pinceaux, il ne veut plus jamais le voir. Et qu'est-ce que va faire Monet? Il va aller chercher les tableaux qu'il a ramenés de Venise, c'est-à-dire le souvenir du dernier voyage avec Alice, et il va les terminer pour en faire une exposition, et après il repartira sur les Nymphéas. C'est vraiment toute une trajectoire qui est très puissante au niveau du ressenti, de la psychologie de l'artiste, du créateur lui-même. Toujours avec cet arrière-plan, un jour je ferai ces grandes choses des Nymphéas. Mais voilà, là il a besoin de passer par ce canal, je dirais, pardon, le canal de Venise, c'est un jeu de mots un peu idiot, mais pourquoi pas après tout, pour pouvoir exsuder en quelque sorte son deuil. Il dit qu'il est arrivé à faire des horreurs, bon d'accord, quel succès. Mais je dois te dire bien franchement, mais avec l'âge, on est en 12, il a 72 ans, il commence un peu à compter. Et avec l'habitude que j'ai dû prendre, hélas, de vivre dans une quasi-solitude, surtout que là, en 12, Blanche, qui va venir s'installer ici, n'y est pas encore, parce que Blanche, elle s'occupe de son mari, Jean, qui est malade et qui va mourir en début 14. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. De vivre dans une quasi-solitude, je sentais bien que j'ai besoin d'une vie calme et tranquille. Il me serait donc impossible de te demander de rester pendant trop longtemps. Tu le comprendras, j'espère. J'en avais du reste touché un mot à ton mari qui a dû te le dire. Albert Salroux, le mari. Écris-moi donc ce que tu penses et compte faire. Quant à moi, je n'ai pas à te dire combien je serais heureux de vous voir ainsi que la joie de tous ici. D'autant plus qu'à cette époque, ma mère qui a, on est en 12, elle a 9 ans et la petite, ma tante qui a 17, 5 ans. Quant à et Monet a toujours aimé les enfants. Quant à moi, je n'ai pas à dire combien je serais heureux de vous voir, ainsi que la joie de tous ici, malgré la douleur qui ne nous quitte pas, mais est plus pénible quand je songe à ce triste anniversaire et aux jours si pénibles passés il y a un an. Chaque soir, lorsque je monte dans ma chambre, où elle a tant souffert, c'est pour moi un calvaire bien pénible, et malgré toutes les affections dont je suis entouré, c'est une bien triste vie que la mienne. Je t'embrasse tendrement, ainsi que tes deux chéris, que je serai content de revoir, ainsi que mon Michel, bien gentil, bien affectueux pour moi, le fils cadet qui, quand même, va être très présent. Ton vieux Monet qui t'aime, Claude Monet. Et c'est sur cette image, un peu plus tardive, d'un Monet qui va effectivement, en quelque sorte, rebondir d'une manière tellement incroyable, tellement prospective, tellement essentielle, en se mettant à l'œuvre de ce projet des grandes décorations des Nymphéas. Ce sera pour la troisième séance en septembre. Merci de votre écoute.
Canal Académie.